Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était en fin de semaine dernière, le 8e vendredi de mobilisation en Algérie. Les rues d'Alger étaient à nouveau noires de monde. Non content d'avoir obtenu la démission d'Abdelaziz Bouteflika, les manifestants continuent leur mouvement en réclamant cette fois la fin du système incarné selon eux par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Mais le système se défend après avoir lâché le président Bouteflika. L'armée insiste pour que le processus constitutionnel suive son cours jusqu'à l'élection présidentielle prévue le 4 juillet. Difficile d'imaginer que des visions aussi différentes puissent toutes être satisfaites dans un temps aussi court. L'Algérie peut-elle se débarrasser du système? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Neila Latrouze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient au magazine Jeune Afrique. Et Antoine Basbous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Avant tout, je parlais à l'instant des manifestations. Elles sont toujours remarquablement pacifiques depuis le début de la mobilisation dans le pays. Mais il semble que depuis quelques jours, milieu de semaine dernière par exemple, les forces de l'ordre réagissent de manière un petit peu plus directe. Il y a des tirs de lacrymogènes, de brèves arrestations. Comment est-ce que vous l'interprétez, Neila Latrouze?
Il y a assurément à Alger un raidissement face aux manifestations qui se poursuivent et qui promettent d'ailleurs de se poursuivre mardi, celle des étudiants, demain, vendredi prochain, a priori encore un appel à manifester. On a senti en fait depuis le 22 février une forme d'hésitation dans la réponse. Le vendredi 22 février, jour de la toute première manifestation nationale, il se trouve que j'étais à Alger, que je m'entretenais avec un responsable de haut niveau et qui m'expliquait que l'ordre avait été donné de laisser les manifestants aller au terme de leur marche, mais pour autant, il y avait eu déjà un certain nombre de heurts sur les hauteurs d'Alger au niveau de la présidence. Je me souviens, j'y étais au moment où des jeunes ont commencé à prendre à partie les policiers à répondre de manière, pour le coup, assez violente. Derrière, effectivement, c'est le type d'image que l'on n'a plus vu pendant un certain nombre de vendredis, et il semble qu'on revienne à une réponse assez musclée, qui rappelle par ailleurs ce qui a pu être la doctrine des manifestations en Algérie en 2014, lors de la précédente présidentielle, qui était d'embarquer manu militari un certain nombre de manifestants qui pouvaient faire figure de leader et de bloquer un certain nombre d'accès dans la ville. Si j'en crois ce qui s'est passé vendredi dernier, on était un peu dans la même configuration.
Antoine Basbous, c'est ce raidissement, cette réaction, disons, plus directe des forces de l'ordre, vous l'analysez comment? C'est quoi le message qui est envoyé?
Je crois qu'ils sont en train de tester une nouvelle doctrine, c'est-à-dire de muscler la réaction, de chasser les familles de la rue, parce que jusque-là, c'est assez festif. Il y a des trois générations qui se déploient tous les vendredis, notamment. Et là, avec les nouveaux heurts organisés, peut-être l'opposition parle de Baltagui, envoyé par le régime pour harceler les forces de l'ordre, pour qu'il y ait du clash et pour qu'il y ait de la réaction, pour faire peur aux civils qui n'ont pas envie de voir leurs enfants dans la mêlée.
Vous voulez dire donc des agitateurs infiltrés, c'est ça?
Disons que ça s'est passé déjà. On a attribué à Ali Haddad, le patron des patrons locaux, d'avoir payé des gens pour venir se heurter aux forces de l'ordre. On revoit les mêmes images, on les a revues vendredi dernier. Donc il y a cette hypothèse qui est avancée par l'opposition.
Est-ce que vous diriez, Neila Latrouze, que l'Algérie est entrée dans une zone un petit peu plus dangereuse?
Ce n'est pas tant la réponse sécuritaire qui m'y fait penser, mais c'est l'absence de débouchés politiques pour l'heure qui me fait penser qu'effectivement le risque majeur serait que ce mouvement aboutisse dans une impasse qui serait dangereuse, parce que d'un côté il y aurait forcément la frustration d'un certain nombre de manifestants de ne pas trouver de sortie, ou qu'aucune sortie de crise ne s'impose d'elle-même, et par ailleurs vous auriez effectivement des autorités aux abois qui seraient bien tentées d'enserrer les manifestants dans cette impasse pour imposer une sortie de crise. Effectivement, en discutant avec un certain nombre de camarades à Alger, alors qu'ils soient simples manifestants, militants de longue date, des personnalités un peu plus politisées, on voit que sur la sortie de crise, on est face à un énorme flou, et ce slogan qui a été répété depuis le début des manifestations, des marches, Yetnahauga, qu'ils s'en aillent tous, aujourd'hui, plus de deux mois plus tard, on a du mal à le définir de manière extrêmement précise en fonction de l'interlocuteur à qui l'on demande, mais ce tous, qui concerne-t-il exactement, à partir de combien de démissions est-ce que vous pourriez considérer que cette revendication est satisfaite? Eh bien, les réponses sont extrêmement diverses en fonction des profils auxquels on est confronté.
Est-ce que le message, Antoine Bazbouze, finalement, c'est pas maintenant Abdelaziz Bouteflika est parti, on n'ira pas plus loin, il faudra vous en contenter? Est-ce que c'est ça que le pouvoir est en train d'essayer de faire passer comme message aux manifestants?
Forcément, le système a sacrifié Bouteflika pour se maintenir, c'est évident. Il veut, au bout de trois mois, renouveler le système, le rajeunir un peu à l'égyptienne, comme après Moubarak, Sisi est venu pour remuscler un système répressif. Donc il y a aujourd'hui un vrai bras de fer qui s'annonce, c'est incontestable, et un nouveau rapport de force qui s'engage. Est-ce que Gaïd Salah, qui est à la tête du système aujourd'hui, va pouvoir...
Le chef d'état-major des armées. Hein.
Chef d'état, vice-ministre de la Défense. Mm-hmm. Est-ce qu'il va réussir à contenir ce hirak, cette mobilisation populaire, et dire je vous ai donné la tête de Bouteflika et de Ali Haddad, le patron des patrons, et ça suffit, maintenant je vais ouvrir les dossiers de la grande corruption, il en a désigné trois pour forcément liquider ses adversaires, ou bien il va être obligé de céder et d'accepter de sortir de la constitution, parce que l'article 102 qui préconise des élections pour le 4 juillet, eh bien, ça va consacrer le système actuel avec de nouvelles têtes. Mmh. En revanche, sortir de la Constitution, ça veut dire se donner plus de temps, changer le mode électoral, avoir une référence à la tête de l'État pendant cette période de transition, et surtout modifier la donne pour que les ingrédients actuels ne soient plus en place et puissent déboucher sur un nouveau système et pas celui qu'on connaît depuis 60 ans.
Le verrou politique, donc la Constitution, l'article 102, c'est une façon de cadenasser ce système, Neila Latrousse, vous adhérez à cette analyse?
Je pense que l'armée est relativement disposée à offrir d'autres têtes, hein, notamment celles qui sont évoquées aujourd'hui dans la rue, les fameux 4B, à savoir le Premier ministre, le président du Conseil constitutionnel, le président intérimaire Ben Salah et le président de l'Assemblée nationale Bouchareb. Au fond, ce sont des personnages, sans mépris aucun de ma part, assez secondaires dans cette histoire-là, qu'il sera facile de faire céder, mais l'armée ne peut pas le faire de manière évidemment tonitruante, pour une raison simple qui tient à l'histoire algérienne. Dans l'histoire algérienne, les généraux ont eu à s'impliquer de manière beaucoup plus tonitruante par le passé, avec les risques que cela comportait, notamment lors des années 90, en matière d'image à l'étranger, de poursuites éventuelle, etc. Et aujourd'hui, l'armée a beau jeu de se conformer à une forme de légalisme constitutionnel pour ne pas prêter le flanc à une critique qui pourrait être celle qui a été faite d'ailleurs en Égypte ou ailleurs au Soudan, de tout simplement de putsch, de coup d'État. Donc effectivement, elle avance de manière assez précautionneuse pour ne pas se laisser embarquer dans ces accusations-là, tout en sachant par ailleurs que cette solution du 102 ne convient pas à la population. Soit dit en passant, dès que l'hypothèse de la démission d'Abdelaziz Bouteflika a été évoquée, au sein de ceux qui portent plus ou moins la voix de ce hirak, on entendait ce n'est pas possible d'organiser une élection dans trois mois. Cela dit, il semblerait que le général Gaïd Salah, le chef d'état-major, se retrouve lui-même piégé par cette solution qu'il a dû trouver in fine pour faire partir Bouteflika, pour donner des gages à la population, mais qui par ailleurs l'enferme dans un calendrier qui n'est pas le sien. Aujourd'hui, on voit par ailleurs qu'il a du mal, en tout cas, c'est l'analyse qui est la mienne, qu'il a du mal à être sur les deux fronts, à savoir militaire et politique, avec une situation aux portes de la Libye extrêmement périlleuse pour les forces algériennes, et par ailleurs un jeu politique qu'il ne maîtrise pas pleinement, puisqu'on rappelle que le régime, ce n'est pas une entité homogène, c'est un ensemble d'intérêts, mais dans ce régime-là, tout le monde n'est pas copain, et tout le monde n'a pas forcément envie de survivre à l'après Bouteflika. De la même façon, on est dans une lutte des clans en interne qui est assez féroce et qui peut encore faire tomber deux ou trois têtes.
Oui, le système, c'est plusieurs clans hein, qui s'affrontent et qui sont en train d'essayer de se placer. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de chercher le candidat idéal pour perpétuer le mode de gouvernance actuel? Vous diriez ça, Antoine Masbous? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de candidat officiel, disons, ou du système à la présidentielle.
Il y aura des candidats compatibles avec le système pour le renouveler. Mais est-ce que le Hirak populaire, cette mobilisation, va accepter ce fait accompli? Parce que la constitution qu'on veut respecter aujourd'hui a été bafouée combien de fois? D'ailleurs, Bouteflika, le 10 mars, a annulé les élections du 18 avril. Est-ce que c'était constitutionnel? Bien sûr que non. Auparavant, il l'avait modelé à sa main pour servir ses propres intérêts. Donc la Constitution, c'est pas quelque chose, c'est pas le Coran pour les Algériens. Et donc aujourd'hui, si le peuple est dans la rue encore plus nombreux vendredi dernier que les vendredis d'avant, ça veut dire qu'il y a une colère et qu'il faut écouter le peuple. Et d'ailleurs, Gaïd Salah avait dit il faut mettre en application l'article 102, c'est-à-dire organiser des élections dans 3 mois, mais aussi l'article 7 et 8 qui parlent de souveraineté populaire. Mmh. Et là, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de modalité d'application de la souveraineté populaire, mais il faut écouter la rue, le peuple, pour trouver une solution qui ne remette pas en place le même système.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les cercles du pouvoir actuel, dans ces différents clans que vous évoquiez, Nella Latrousse, qui peut incarner au moins un semblant de changement?
Il y a indéniablement des personnalités qui pourraient y prétendre, mais pour cela, il faudrait que le centre de gravité de ce régime, de ce système, puisse être déplacé au profit d'un des acteurs qui, du coup, se sentirait suffisamment légitime pour porter ce candidat-là de manière seule et unique. Vous savez ce qui s'est passé autour de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, le cinquième mandat, c'est en réalité une absence de consensus entre l'armée, un certain nombre de partis, la présidence, les frères d'Abdelaziz Bouteflika, un certain nombre de soutiens, des hommes d'affaires, où chacun avait son candidat, son plan B idéal, et faute de consensus, bon ben on va choisir le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire Abdelaziz Bouteflika. Avec la chute de cet acteur-là, le centre de gravité se déplace indéniablement du côté de Gaïd Salah. On n'a plus un certain nombre d'oligarques, d'hommes d'affaires qui, eux, soutenaient le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. On n'a plus Abdelaziz Bouteflika et ses frères qui, eux, étaient là également pour vanter cette hypothèse-là. Le centre de gravité se déplaçant, on évoque des personnalités comme l'ancien Premier ministre, par exemple Abdelmajid Tebboune, qui est du FLN, qui est soutenu par une partie du FLN, qui sera rejeté par un autre parti de la majorité, à savoir le RND, mais qui ne faisait pas consensus, encore une fois, il y a quelques mois, parce que il était rejeté par une partie du régime qui avait encore sa voix au chapitre.
Et il ne fait toujours pas consensus, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Mais en tout cas, l'armée, l'état-major pourrait imposer son candidat avec d'autant plus de facilité qu'il n'a plus le contre-pouvoir Bouteflika, qu'il n'a plus le contre-pouvoir homme d'affaires.
Antoine Masbous, vous voulez réagir à ça?
Oui, j'ai une autre lecture de Bouteflika. L'homme est narcissique. L'homme est autocrate. Et aucun narcissique autocrate arabe n'imagine un seul instant qu'il quittera le palais autrement que les pieds devant. Mmh. C'est-à-dire que le jour où il est rentré à Al-Mouradiyah, il pensait qu'il allait rester. Et c'est pourquoi il a modifié la constitution plusieurs fois pour pouvoir se donner le temps de mourir président, d'avoir des obsèques internationales, d'être enterré à la grande mosquée d'Alger qu'il est en train de construire. Donc, Bouteflika, il n'y avait pas de... À mon sens, il n'y avait pas vraiment de lutte de clans. De toutes les façons, c'est Bouteflika et ses frères qui décidaient, même s'il y a des avis divergents, c'est Saïd et Abdelaziz qui avaient le dernier mot.
Il y avait
et
une autre hypothèse.
Bouteflika voulait lui aussi mourir président.
Il y avait une autre hypothèse, puisque à l'automne, Saïd Bouteflika avait reçu un certain nombre de personnalités de l'opposition pour leur vendre l'hypothèse du report. N'étant pas sûr que l'élection pourrait se tenir dans des conditions sereines, le scénario qui avait été envisagé dans un premier temps, et c'était le chef du MSP, des islamistes, Abdelazer Mokhri, qui était chargé de vanter cette hypothèse, et notamment auprès de l'armée, et Ahmed Gaïd Salah s'y était opposé, l'hypothèse était de reporter l'élection d'un an, puisque on partait du principe que la santé du chef de l'État se dégradait au point qu'il ne survivrait pas à ce cinquième mandat, et effectivement, de quitter El Mouradia en chef de l'État, mais en tout cas de ne pas tenir l'élection, donc de ne pas faire de cinquième mandat. C'était pour repréciser
ce qui rejoint la fin quand il a supprimé les élections du 18 avril, il a dit « je vais rester là pour assurer la transition ». Donc il voulait rester président jusqu'à la fin de sa vie.
C'est le FLN qui domine la vie politique algérienne, mais il y a le multipartisme en Algérie. Il y a beaucoup de partis, plusieurs dizaines. Et qui peut, dans ces autres partis, éventuellement incarner le changement? Est-ce qu'il y a une opposition légitime, Antoine Basbousse?
Il y a une opposition légitime, mais qui n'est pas forcément au sein des partis, parce que les partis ont été confectionnés et dès lors qu'ils par l'État, et dès lors qu'un parti devenait un peu important, ont suscité des divisions, des scissions, pour rester affaiblis. Et après, ils étaient satellisés par la présidence, participaient aux agapes du pouvoir. Il y a un chef de parti islamiste qui a mis de côté, dans une grande fraude, 2 milliards de dollars dans un seul projet. Donc, vous voyez, tous les partis, fussent-ils d'opposition, étaient associés à la grande fraude du pouvoir. En revanche, aujourd'hui, dans la rue, ça se joue en dehors des partis. C'est pourquoi l'opposition officielle a été surprise. Il y a des gens qui sont des icônes maintenant, qui commencent à l'être. Je citerai l'avocat Bouchachi, par exemple, Mustapha Bouchachi, ou même Madame Assoul, Zoubaïda Assoul, qui était magistrate, qui est aujourd'hui avocate. Il y a des figures qui sortent, qui sont reconnues et qui sont en train de donner un peu du Hirak.
Le mouvement populaire est donc très décentralisé. Évidemment, comparaison n'est pas raison, mais c'est difficile de trouver des leaders, un peu comme ce qui se passe en France avec le mouvement des Gilets jaunes en ce moment. Personne ne ressort ou se met en avant jusqu'à présent. Ce mouvement doit-il, peut-il, Neila Latrousse, se réorganiser pour faire émerger des leaders encore plus en avant?
Il y a eu une tentative du côté du pouvoir, ou en tout cas du gouvernement provisoire, de
choisir
libéraliser. C'est un peu ça, de libéraliser en fait la formation de parti en appelant les manifestants à créer leur parti. Je crois qu'il y en a eu quelques-uns, presque une dizaine, qui vient d'être autorisés pour essayer justement de faire émerger des figures de ce type-là. Mais on est surtout dans, au-delà du jeu politique, on est dans un mouvement qui prend racine sur les réseaux sociaux, qui s'exprime sur les réseaux sociaux et qui se structure sur les réseaux sociaux pour une raison simple. On connaît ça partout, mais en Algérie, il se trouve que le politique a été tellement démonétisé ces derniers temps que le jeu ne se joue plus dans cette arène-là. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas envie, en fait, d'intégrer un gouvernement de compétence ou d'union nationale. Ils n'ont pas envie de créer des partis politiques. Et toute la difficulté, c'est de savoir comment ce mouvement, effectivement, va transmuter d'une colère 2.0 qui s'exprime dans la rue et d'une masse à quelques individualités qui portent les voix de chacun. J'ai envie de vous dire, c'est des défis qu'on retrouve dans un certain nombre de pays, à ceci près, encore une fois, que le politique est totalement démonétisé à ce stade en Algérie.
C'est la question de la représentativité, Antoine Basbousse. C'est difficile, vous avez cité quelques personnes, mais de sortir des leaders qui pourraient prendre la tête de quelque chose.
Écoutez, à vrai dire, l'avocat Mustapha Bouchachi a les caractéristiques d'un chef, parce qu'il a une vision, il a une expression, il a un certain charisme, il rassure. En même temps, il était avocat président de la Ligue des droits de l'homme, il a été député, il a claqué la porte en disant « c'est quoi ce Parlement aux ordres ?» Et son expression rassure, il n'est pas révolutionnaire, il faut tout casser. Mais ce qui est important, c'est de souligner que les organisations professionnelles prennent beaucoup d'importance. Les avocats, l'ordre des avocats, les magistrats,
les médecins,
les journalistes, même les journalistes des entités publiques se sont exprimés, ont réclamé de pouvoir exercer librement ou de façon sereine leur métier. Donc il y a même les élus locaux, il y a 20 jusque-là, 20 ou 40 maires qui refusent d'organiser les élections du 4 juillet parce qu'ils considèrent que la fraude va être là et qu'ils ne vont pas pouvoir réviser les listes électorales.
En quelques secondes, les élections du 4 juillet, elles auront lieu, Neila Latrousse?
J'y crois assez peu.
Moi Antoine aussi, Basbousse. Je n'y crois pas non plus.
Merci Antoine Basbousse et Neila Latrousse d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arnold Assoa à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez également au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Appel